Bonjour, bonsoir, je suis Morgane, sexothérapeute. Bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre. Nous partons ensemble en s'exploration. Avez-vous déjà entendu parler des sœurs de la perpétuelle indulgence ? Actrices actives du mouvement militant LGBTQIA+ à l'international, j'ai l'honneur de recevoir deux sœurs pour nous parler de leur mouvement, de leurs actions, de leur histoire et bien évidemment de prévention. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis ravie d'avoir mes sœurs face à moi. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? On va commencer avec sœur Ulrika.
Bonsoir, donc sœur Maria Ulrika Pott de la Glotte Sacrée, avec un nom très 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 long en vrai. Donc sœur Ulrika, c'est très bien, et je suis mère supérieure du couvent des 69 Gaules.
Bonsoir, donc moi je suis le garde Elvis Sissitude, voilà, du couvent des Traboules à Lyon.
Enchantée mes sœurs, ravie de voir vos petites cornettes et votre calot sur ces têtes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que sont les sœurs de la perpétuelle indulgence ?
Alors au départ, ça s'est né à San Francisco. Et c'est parti d'une blague, en fait, de ce que nos sœurs fondeuses appellent la plus sérieuse des blagues, c'est-à-dire des hommes qui, ayant récupéré des habits de bonne sœur, se sont armés de pistolets à eau pour asperger les gens à San Francisco en mode « aimez-vous, la vie est belle ». Et il s'avère que ce qu'eux ont pris pour une blague a trouvé un écho. Les gens sont venus leur parler, ils avaient trouvé les sœurs, les nonnes qu'eux n'avaient pas en fait dans leur quartier. Et donc petit à petit, ça s'est plus ou moins institutionnalisé et ça a pris forme avec l'épidémie du sida, puisque les sœurs de la perpétuelle indulgence ont été la première association à faire un guide de prévention, à dire aux personnes « protégez-vous, soignez-vous, allez voir un médecin, parlez ». Et puis eh bien, les voyages, les choses comme ça ont fait que petit à petit, ben, ça a essaimé dans plein de pays, dont en France. Et à l'intérieur de la France, ça a essaimé à plein d'endroits, dont à Lyon.
Il y a énormément de personnages dans ce mouvement. Les sœurs, les gardes, peut-être même d'autres termes que je n'ai pas encore. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'organisation des sœurs de la perpétuelle indulgence ?
Alors traditionnellement, les sœurs donc, sont donc des sœurs, on reprend un petit peu le principe des sœurs, du coup avec les cornettes, le voile blanc, des choses comme ça. Donc dans les personnages qu'on va trouver, on va avoir la novice, qui n'est pas encore sœur, mais qui commence à avoir un personnage qui se développe, qui est en train d'apprendre, en cours d'apprentissage. Plus tard, lorsqu'elle est élevée, elle deviendra une bonne sœur, donc une sœur de la perpétuelle, avec ses cornettes. Mais on trouve également d'autres types de personnages. En 1991 est apparu un autre personnage qui est le personnage du garde-cuisse. Donc le garde-cuisse, c'est le pendant pseudo-viril de la sœur, donc comme moi, voilà, on n'est pas vraiment viril, on fait avec. De loin, on a l'impression que, mais non. En réalité, non. Nous sommes de bonnes folles radicales, comme tout le monde.
En quoi consiste cette organisation ? Alors, vous m'avez un peu expliqué la naissance du mouvement, etc. Mais vous êtes là aussi pour passer un message. Qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on intervient sur plusieurs actions. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle, nous, faire le trottoir. Donc, où on part directement entre sœurs, à plusieurs, pour des raisons de sécurité, de façon. Et on va, en fait, faire le tour des bars. On va simplement rentrer dans les bars, dire bonjour, faire coucou, aller voir comment les gens vont. Et puis, très souvent, on a ce qu'on appelle des confessions, donc des personnes qui, à un moment donné, de leur vie, ont besoin de parler un petit peu. Et puis, la sœur est là pour écouter, elle est là pour rigoler un petit peu avec, pour essayer peut-être un petit peu recueillir la parole, des choses comme ça. On fait également de la prévention, notamment sexuelle et drogue. Voilà, donc prévention de santé sexuelle, donc que ce soit en distribuant des capotes ou simplement en expliquant des choses aux gens, parce que parfois, les gens ont des vrais soucis au niveau de l'info, n'ont pas toutes les infos. Il est important de recadrer un petit peu et de dire dépistez-vous, ça peut être grave, ou etc., etc. Voilà. Après, dans les autres œuvres qu'on va avoir, on va avoir les œuvres de charité. On récolte un petit peu toute l'année de l'argent. Cet argent ne sert absolument pas pour les couvents. Je vous rassure, on ne paye pas le maquillage avec, ni nos habits, ni nos cellules. Ce que nous payons par contre, ce sont ce qu'on appelle des bourses, en fait. C'est-à-dire qu'on génère des bourses qui permettent de soutenir des actions locales, associatives, sur différents sujets, que ce soit les sujets LGBTQIA+, santé sexuelle, prévention de drogue, combat féministe, l'aide aux migrants, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est une autre de nos actions. Et après, on a tout ce qui est représentation durant les prides, enfin les marches des fiertés, où on est là, on est présente, évidemment. On va marcher, on va battre le pavé, faire des manifs. On a énormément de formes d'action différentes. Et je pense que chaque couvent, presque, a ses méthodes spécifiques, ses méthodes préférées. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Ulrika ?
Oui, donc on va aussi intervenir dans des soirées, alors que ce soit des soirées festives, dans des lieux, etc. Mais également, ça peut être dans des soirées privées. Là, dernièrement, on est intervenu à la demande des organisatrices sur une soirée festive pour des personnes neuroatypiques, donc dans un lieu un peu clos, en espace un peu réduit, avec moins de bruit, enfin avec des... pour répondre à ces besoins-là et leur permettre d'accéder à la fête et d'accéder à l'information, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas sortir ou qui peuvent moins sortir parce que certains lieux ne sont vraiment pas adaptés et qui, du coup, n'ont pas accès à l'information et à nous. Ça peut être aussi des actions coup d'éclat, ça nous est déjà arrivé. Il y a eu notamment un 15 août où on a marié Jean 23 et Barbarin pour le principe, puisqu'il y avait eu cette espèce de déclaration au moment du mariage pour tous que le mariage c'est bien beau mais ça reste entre un homme et une femme. Donc bon, bah, on a décidé qu'on ferait comme d'habitude, c'est-à-dire ce qu'on voulait. Et également l'organisation et la participation de jouvences ou de ressourcements, donc qui sont des séjours non médicalisés. J'insiste là-dessus, on n'est pas médecin, on n'est pas infirmier, on n'est pas infirmière, pour des personnes touchées ou concernées par le VIH, par les IST, par des deuils aussi également. Donc on amène ces personnes dans des lieux en pleine campagne pour qu'ils se ressourcent. Donc on a des ateliers, on fait des prises de parole, on fait la fête, on discute. Et c'est des moments qui sont très très précieux et pour lesquels on récolte des fonds, donc comme disait Elvis, dans nos œuvres de charité.
Comment sont reçues vos actions ? Dans les espaces dans lesquels vous intervenez ?
Alors, c'est un peu biaisé, parce que la majorité de nos actions, c'est des actions où on nous attend. Donc, de toute façon, ça va relativement bien se passer, effectivement. Après, les actions de trottoir, ou les coups de cornette, ou les actions dehors, c'est très, très, très étrange. Et on a des fois des réactions vraiment de personnes... Si les yeux pouvaient tomber, ils seraient en danger, ces gens-là, il faut le savoir, tellement ils sont là en mode « qu'est-ce qui se passe ?». Alors paradoxalement, on est rarement mal reçu, on est rarement agressé. Alors à titre tout à fait perso, je pense que c'est dû au fait qu'au bout d'un moment, quand on a passé toutes les limites, mais à Mach 2, quand on est au-delà d'absolument tout, bon bah voilà, il ne peut plus rien nous arriver en fait. Hein. C'est pas quand on est un tout petit peu à côté et qu'on a l'air fragile, là on est plusieurs. On nous repère à 300 mètres, que ce soit à la vue ou au son. Et du coup, ça se passe bien, en fait. On prend le métro, comme ça, par exemple, pour aller au Pride. Donc, c'est en général un moment selfie et regard bizarre. Mais ça se passe bien.
D'ailleurs, vous avez même un char, il me semble. En tout cas, vous avez eu un char à la Pride, si je dis pas de bêtises, à la dernière Pride à Lyon.
Alors, en fait, nous, on n'a pas de char spécifique, parce qu'on a tendance à marcher avec les gens. Maintenant, après, comme on est quand même un peu des feignasses, je l'admets complètement, j'étais sur le char. Voilà, je suis une grosse feignasse et j'avais un peu mal au dos. Et du coup, on a été très gentiment reçus par le char de SOS Homophobie, qui est un merveilleux char tiré par un tracteur. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, ce tracteur. Mais on n'a pas de char à nous, en fait. Non, on est vraiment au milieu de la Pride. On se déplace beaucoup. On a tendance même à éclater le groupe en plusieurs petits groupes. On s'essaime un petit peu partout, comme ça, voilà. On se répand, tel le pollen au printemps.
Effectivement, en plus de ça, je vous ai vu un peu partout. Enfin, il y avait plusieurs de vos sœurs dans la foule, etc. Et puis même, je vous ai vu dans plusieurs événements. Et merci pour ce que vous faites. Alors, une question qui est déjà revenue de la part des personnes qui me suivent. Pourquoi utilisez-vous un langage décalé et un esthétique similaire au catholicisme ? Alors, sœur Ulrika, tu nous l'as un peu évoqué au début de ce podcast, mais si le catholicisme est le bon mot, hein, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce langage, pourquoi il est encore utilisé et dans votre quotidien en tant que sœur ?
Alors effectivement, au départ, c'est historique parce que ça a commencé par des robes de bonne sœur et puis également parce que très vite, ça s'est transformé en moment de confession, de recueil, de charité, d'aide à la personne, ce que font les bonnes sœurs en fait. Et puis, ben, la tradition aidant, c'est des choses qui ont été gardées puisqu'elles font partie de notre histoire et de nos histoires. Après, ce n'est pas une critique du catholicisme comme on l'entend souvent, même si on a plein de choses à dire à ce sujet-là. C'est une reprise d'imagerie parce qu'on fait la même chose. Et puis parce que c'est notre tradition, c'est comme ça qu'on est né. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. On va emprunter à beaucoup d'autres codes et à certaines de nos sœurs qui portent le hijab en action, par exemple. C'est vraiment l'idée d'associer la religiosité à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire la charité, l'écoute, la joie, le partage. Sauf que nous, en plus, on l'habille de cette culture queer parce que c'est notre culture, en fait, tout simplement.
Comment prendre contact avec vous ?
Alors, on a plusieurs façons de nous contacter. Déjà de façon directe, nous, on a chaque couvent en général a une page Facebook. Pour certaines, on essaye d'avoir en plus, on a un profil Facebook, Instagram, donc pas les réseaux sociaux. Voilà, on en a beaucoup de ça. Après, chaque couvent a un mail de contact qui est associé au site internet qui le représente. Bon, nous, le nôtre actuellement, le site est en travaux, mais on a tout le reste. Voilà, on a toujours les mails qui fonctionnent. Mais voilà, donc on a tout ce qui va être mailing, tout ce qui va être réseaux sociaux. Ça, c'est le côté pratique. Si on est à distance, qu'on veut juste envoyer un message comme ça, un petit coup, et savoir un peu. À côté de ça, on tient aussi un peu à jour nos actualités. C'est-à-dire que si on doit aller sur un événement, des choses comme ça, quelque chose qui est prévu, on va l'annoncer. Donc on l'annonce sur les réseaux en général. Quelques jours avant, ça permet de voir un peu si on y sera ou pas. Et après, des fois, au petit bonheur, la chance. Dans les prides, vous êtes quasiment sûr de nous voir. Voilà, ça c'est le moment de l'année où de toute façon, même les plus vieilles d'entre nous finissent par sortir. On les sort de la naphtaline, on les décongèle, on y va. Voilà, une fois un peu dépoussiérées, elles ne sentent pas si mauvais. Et sinon, en dehors des prides, on a quand même quelques événements. On a la marche, on a notamment la marche pour la Saint-Sida, qui est un événement où dans beaucoup de grandes villes, vous allez retrouver des sœurs. Donc ce que nous on appelle la Saint-Sida, en fait, c'est la journée de lutte contre le VIH international qui tombe le 1er décembre. À l'occasion de cette date, les sœurs organisent ou en général participent à une marche, qui est une marche de commémoration pour toutes les personnes malheureusement qui ont disparu à cause de cette maladie, que nous considérons comme à l'heure actuelle au paradisco. Voilà. Donc elles sont quelque part dans une fête éternelle et merveilleuse. Voilà, et elles nous surveillent, elles veillent sur nous et on pense à elles. Voilà, et c'est le moment de l'année où on peut penser à elles. Et c'est aussi un très bon moment pour rappeler au pouvoir public qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est un message politique aussi. Et en même temps, de permettre aux gens qui ont besoin peut-être de parler par rapport à ça, parce que ben, ils ont été touchés de différentes façons, de pouvoir venir nous voir. Bon, ça fait partie des événements où on peut nous croiser.
Oui, et puis c'est vrai qu'on peut aussi nous contacter, alors à titre interpersonnel, effectivement, pour venir nous parler, pour nous poser des questions, dans le cadre d'une confession, etc. Mais il y a aussi d'autres associations queer ou périphériques qui vont nous demander. On a déjà été beaucoup sollicités sur des événements antiracistes, sur des événements féministes, notamment des événements pro-choix ou des marches. Là, c'est des moments où, de nous-mêmes, on ne va pas l'organiser, parce que ce n'est pas notre cœur d'action, mais auxquels on va être très, très associés et ravis de l'être, en général, en plus.
Vous parliez d'une multitude de couvents un peu partout en France. Quelles sont vos relations avec ces couvents ? Est-ce que vous êtes connectés ? Est-ce que vous communiquez entre vous ? C'est-à-dire que quelqu'un qui habite dans une ville à Toulouse, par exemple, et qu'elle veut monter à Paris, elle est certaine, cette personne, de retrouver un autre espace similaire au vôtre. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la relation que vous avez avec les autres sœurs, les autres couvents, et comment ça se passe ?
Alors déjà, il y a plusieurs couvents en France, mais c'est vraiment pour des raisons pratico-pratiques. C'est-à-dire que chaque couvent, légalement, est une association. Ça lui permet de se gérer en autonomie et de se gérer dans l'immédiateté. Si on était une fédération, par exemple, et qu'à Lyon, il se passe un truc, on a envie d'intervenir, mais qu'il faut en parler au siège, qu'il faut attendre que machin... On perd, en fait, on se dilue. Donc chaque association qui se monte est sa petite association, loi 1901, etc. Après, l'intercouvent, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps pour des 1er décembre, pour des prides, pour les Solidays, parce que ça nous arrive de participer à certains festivals. Quand il y en avait, vivement qu'il y en ait à nouveau. Des actions aussi où on se dit bah, y a une action intéressante à Montpellier, à Paris, à Toulouse ou n'importe où. Bah, on va y aller en fait. Et on s'envoie beaucoup des mails entre nous. On se connaît. En plus, certaines d'entre nous se connaissent depuis très longtemps de par d'autres luttes. Parce que la quasi-intégralité des gens qui arrivent chez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, bah, on a un parcours avant. On a déjà un parcours associatif, militant, donc y a des bonnes relations et surtout il y a des choses qui sont faites ensemble.
Est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours en tant que sœur ? Comment vous avez découvert ce mouvement ? Comment vous avez décidé de l'intégrer ? Comment ça s'est passé ? Pouvez-vous me raconter un peu votre baptême, histoire que l'on puisse imaginer, peut-être même revivre avec vous ce moment à travers vos voix ?
Alors, moi, j'étais déjà dans l'associatif LGBTAUQI+. Ouh, c'est dur. Du premier coup, c'est difficile. Et c'est vrai que je suis allée à une Pride et j'ai croisé ces sœurs-là. J'en avais déjà entendu parler, mais que entendu parler. Là, c'était l'occasion d'aller discuter. Alors, en Pride, c'est toujours un peu plus compliqué parce que les sœurs sont très, très, très demandées. Donc, on va discuter 2 minutes avec. Après, le reste, ça va être sur Internet. Quelques temps après, je suis allée aux UEH, donc les universités d'été des homosexualités. Je ne sais pas si ça existe toujours avec le confinement, je ne sais pas trop où ça en est. Et j'ai croisé là-bas des sœurs. Comme on était en circuit fermé, j'ai pu passer toute une soirée qui s'est transformée en toute une nuit pour discuter avec. Et au petit matin, me dire, bon, militer, c'est quelque chose que je fais déjà, mais en fait, c'est comme ça que je veux le faire. C'était plus une question de référentiel, de méthodologie, de me dire, c'est comme ça. Et là, on écrit une petite lettre à un couvent pour dire « Bonjour, j'aimerais bien faire ça avec vous ». Et on commence par les suivre, les observer. Et puis si tout va bien, au bout d'un moment, on dit qu'on estime qu'on est prête. Donc on devient novice, dans mon cas. Et puis on continue à faire des actions en formation, comme disait Elvis tout à l'heure. Et puis un jour, on nous colle des cornettes et un voile noir et hop, on y va.
Alors, moi j'ai eu un parcours militant qui est un petit peu plus dilué parce que du coup, j'ai connu les sœurs assez jeunes en fait. J'ai commencé à les connaître, j'avais 16-17 ans. Et c'est un truc que j'observais un peu de loin, c'est comme un papillon de nuit avec une lumière. C'est attirant, mais quand même, on ne sait pas trop, voilà. Elles sont impressionnantes, elles font un peu peur, mais waouh, c'est joli, tout ça, il y a des paillettes. Et je les ai regardés de loin pendant très longtemps. Moi, je participais à toutes les prides à l'époque à Montpellier, parce que je suis du Sud. Et j'ai croisé à plusieurs reprises les sœurs avec qui je fais des petites interactions, sans trop de plus. Et c'est en arrivant finalement sur Lyon, quelques années plus tard, pour le boulot, où je les recroise. Et enfin, le tilt est immédiat. Et alors pour ma part, j'ai vraiment senti ce que moi j'appelle l'appel. C'est le truc du « Waouh, je veux militer, mais je veux militer comme ça. Cette méthode-là, elle me plaît. Aller juste dans la rue, lever le poing avec des banderoles, c'est cool. » Je ne dis pas le contraire, c'est génial, c'est important que l'on fasse. Moi, j'avais besoin de plus. J'avais besoin d'une espèce de décorum, de transformer en fait la manifestation et la colère que j'avais à l'intérieur du militant en quelque chose de plus joyeux, de plus festif, qui me bouffe un peu moins la tronche, on va dire.
De la sublimer.
Exactement. Voilà, de sublimer tout ça. Voilà, rise like a phoenix, comme disait-elle. Et du coup, j'ai commencé à traîner dans les jupes des sœurs, mais alors vraiment de façon très grossière, genre traîner, les coller un peu au basque dans toutes les soirées où je les croisais, et puis blabla, comment ça va, qu'est-ce que tu racontes, tout ça, et puis tu t'apprends un peu les noms. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, au bout d'un moment, elles m'attrapaient, elles m'ont dit « Bon, t'es bien gentil là, à nous coller un peu comme un chewing-gum, mais tu voudrais pas rentrer chez nous, en fait, un petit peu ?»« Ouais, bah, peut-être, je sais pas, et tout. » J'ai un peu fait mon timoré, j'ai traîné quelques temps, genre « Oui, je sais pas, blabla. » Et tourne-vire suite à certaines rencontres, parce qu'on rencontre au fur et à mesure différentes sœurs. Il y a des discussions qui sont des fois très longues, des discussions, comme tu dis, Ulrika, des discussions d'une nuit entière, des choses qui sont très belles, qui se disent. Tu te livres énormément ou tu apprends des choses très profondes sur le parcours de la personne. Et ça te touche et ça fait écho. Et c'est cet écho-là, en fait, qui pour moi a allumé, on va dire, la flamme du « Allez, j'y vais, je fais ma lettre de postulance » que j'ai envoyée. J'ai été reçue, je crois, une semaine après. Et puis, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, en général, si vraiment tu es dedans, c'est une suite logique. J'ai été élevé ensuite un 17 mai, voilà, ce qui est très important, qui est le jour de l'IDAO. Voilà. Donc le jour de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et ça a été ma première élévation, où je suis devenu aspirant. Donc on aspire beaucoup, surtout les informations, c'est important. Hein. Et comme ça, j'ai appris en fait comment ça se passe sur le terrain, comment est-ce que tu gères une confession quand c'est un petit peu lourd, parce qu'on n'est pas thérapeute, il faut quand même le rappeler, on n'est pas formé à ça. Tu apprends toutes ces choses-là, tu apprends aussi à créer ton personnage, à le développer, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain, pouf, boum, j'ai appris à me maquiller, j'enfile un costume et je suis là. Elvis, c'est un personnage qui est complexe, qui n'est pas la personne qui est en dessous, qui a d'autres façons de vivre les choses, d'autres façons de raconter, de parler. J'ai pas ce phrasé-là dans la vie de tous les jours, sinon quelqu'un me tue, je pense, à force. Heureusement. Et puis, au fur et à mesure, quand mes consoeurs, quand mes marraines, ma marraine m'ont senti prêt à porter le calot, du coup, j'ai été élevée. J'ai été élevée cet été à la Pride de Marseille, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour. Voilà, et je suis devenue garde Elvis Sissitude. Voilà, et depuis, je suis enfin leur égal.
Quelqu'un qui a envie d'intégrer ce mouvement, de faire partie de cette grande famille de sœurs, comment ça se passe ?
Alors en fait, la personne postule, c'est-à-dire nous envoie alors, soit un courrier, soit un mail, en fonction de ses envies et de son accès technologique, en nous expliquant en fait les choses. Alors, des fois, c'est des personnes qu'on connaît, donc ça va être des choses un peu courtes parce que c'est des choses qu'on s'est déjà dites. Des fois, c'est des personnes qu'on connaît moins, qui nous ont effectivement observées un peu de loin, longtemps, en disant « j'ai bien envie de le faire, mais j'ai pas encore le déclic ». On reçoit cette personne-là, et après l'avoir reçue pour la faire parler, et puis pour nous parler aussi en civil, hors action, hors de cette effervescence, la personne commence à nous suivre en action, en ne faisant rien d'autre que nous observer, vraiment. C'est presque comme d'abord, il y a le stage d'observation, puis il y a le stage pratique, en fait. Et après, hop, si tout se passe bien, ça marche. Sachant que ce processus-là, il permet plein de choses. Il permet déjà de voir ce qu'il y a derrière le maquillage et derrière la paillette, parce que c'est quelque chose qui ne se voit pas, et c'est normal. Il permet aussi que chacun, chacune, sache bien si effectivement c'est ce qu'il faut faire, et c'est la façon dont il faut le faire. On a des personnes qui s'arrêtent en route pour aller vers d'autres associations, par exemple. Et c'est super, en fait. Et c'est très, très bien comme ça. Et puis aussi pour apprendre à gérer les choses un peu difficiles. Elvis parlait des confessions. Il y a des choses qui sont complexes à entendre. Gérer l'organisationnel, gérer les énergies, gérer des fois les contretemps, parce qu'il y a des actions qui se passent mieux que d'autres, en fait. Mais l'essentiel, c'est ça, c'est de passer par un message, un mail, un courrier, que le couvent d'accueil va lire pour recevoir la personne, pour voir comment on met en place un parcours.
On arrive à la fin de ce podcast, et il faut absolument que je puisse vous poser cette question. Pouvez-vous me définir avec vos termes ce qu'est la sexualité / possiblement les sexualités?
Alors après, ça va être à découper en plusieurs morceaux, en tout cas pour moi, parce qu'il y a, je dirais, il y a autant de réponses que de sœurs et presque autant de réponses que de jours que de sœurs, en fait. Il y a la sexualité de la personne, effectivement, qui est sous le maquillage, qui est sous le voile, et la sexualité telle que nous, on en parle. On a tendance chez les sœurs à dire « nos hobbies in job », c'est-à-dire qu'on est des personnages sexy, on est des personnages sexués, avec une identité de genre, on parle beaucoup de cul, on aime parler de cul, mais cela dit, on n'est pas des personnages sexuels, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas des travailleuses du sexe, on n'est pas des partenaires potentiels, on n'est pas là pour ça, en fait. C'est aussi peut-être à ça que sert ce langage pseudo-religieux, c'est-à-dire à nous mettre à distance de ça. Pour autant, effectivement, on est des acteurs, actrices de prévention, donc on va en parler beaucoup. Et si je devais donner une définition en une seule phrase, la sexualité ou les sexualités, c'est du plaisir dans le consentement et du consentement dans le plaisir.
Bah, je vais quand même beaucoup rejoindre Ulrika sur ces questions-là, notamment sur l'histoire du personnage. C'est vrai que pour moi, Elvis, et comme je pense quasiment toutes les sœurs vous diront pareil, on n'est pas là pour ça. Du coup, forcément, on ne sexualise pas nos personnages. Ça ne veut pas dire qu'on les rend pas sexy, qu'on ne joue pas de ces codes-là. On va jouer des codes érotiques, même pornographiques, c'est pas un problème. Mais nos hobby in job, ouais, la phrase est totalement juste, en fait. Hein, nos hobby in job, c'est-à-dire qu'on, voilà, on ne, de façon crue, on ne baisse pas pendant qu'on est en sœur, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Déjà, on est très occupé, à un moment donné, bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et du coup, c'est vrai que on détache un peu ça des sœurs, pour autant, on en parle, on fait de la prévention, donc on a quand même une vision de ce que doit être, de ce qu'est, enfin, il n'y a pas ce que doit être, pardon, ce qu'est la sexualité ou ce qu'on pense en savoir. Pour moi, effectivement, je pense que je te rejoins un peu là-dessus, c'est que pour moi, c'est du partage. Pour moi, c'est du plaisir, du partage, le tout dans le consentement, sans culpabilité. Ça, c'est un truc quand même qui est important. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important, très attaché aux sœurs. C'est-à-dire que le kink shame est quelque chose de complètement banni chez nous. Nous, on part du principe que nous luttons contre la culpabilité stigmatisante. C'est-à-dire que tant que des personnes sont consentantes, ils font bien ce qu'ils veulent de leur cul et de tout le reste. Le corps n'appartient qu'à soi. Le jugement, on n'est pas là pour l'avoir. Bien au contraire, on est là pour déculpabiliser les gens. Et on n'a pas à porter de jugement sur ce qu'est la sexualité. C'est pour ça que c'est dur aussi peut-être de définir la sexualité pour nous, parce que tout au final peut être sexuel si la personne qui le fait dans la belle entente et le bon esprit et en consentement le considère comme une sexualité. Et on n'est pas là pour donner une définition de ça, on est là pour accepter, respecter, ne pas culpabiliser et parler de ce qu'on peut voir à côté sur la prévention, ce qu'il peut y avoir dans des choses derrière. Mais pour nous, en fait, ouais, tout au final peut être sexuel, je pense.
Justement, pour venir sur cette idée de culpabilité, on en parlait un peu en privé, dans les préventions que vous faites, il y a aussi cette idée de déconstruction. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Alors, la déconstruction, pour nous, c'est une notion clé, et surtout, c'est une notion de toute une vie. C'est quelque chose qui, des fois, me rend un peu perplexe quand je discute avec certaines personnes en milieu festif, en milieu associatif ou en milieu n'importe où. Ils disent « oui, mais moi, je suis déconstruit ». On est toujours en déconstruction, on n'est jamais déconstruit en fait. Et cela étant, pour ce qui est de la culpabilité, alors ça porte effectivement sur la prévention SIDA, MST, IST, sur les sexualités, sur les identités de corps. On est aussi très très actifs sur les luttes contre la grossophobie, contre l'agisme, contre le validisme, tous ces combats-là qui nous tiennent à cœur également. C'est de dire que rien n'est à culpabiliser. En fait, la culpabilité, ça ne doit pas exister, la culpabilisation, en fait. La seule culpabilité qui existe, c'est quelque chose, c'est une notion judiciaire, elle appartient au crime, c'est autre chose. On n'est pas là pour être juge. Juge, c'est un métier, et c'est un métier judiciaire. Sa vie, on la mène comme on l'entend, et surtout, et c'est aussi pour ça qu'on est dans l'outrance, dans le maquillage, dans le phrasé, dans l'imagerie, dans les paillettes, etc. C'est quelque chose que j'utilise souvent, c'est dire à quelqu'un, non mais si moi je peux être comme ça, toi, tu peux bien faire n'importe quoi, tu seras toujours moins pire et tu seras toujours magnifique. En fait, exister, prendre la liberté d'exister, c'est ça qui fait qu'on est beau.
Je me permets de revenir aussi par rapport à la sexualité. C'est vrai que par rapport à la culpabilité dont tu parlais, c'est vrai que dans nos combats, dans nos méthodes, nous, on lutte énormément contre la culpabilité. S'il y a bien un truc qui nous fait hurler, soyons clairs, qui nous fait vibrer la cornette, c'est quand on commence à rejeter une faute sur le fait d'être atteint d'une IST, du VIH ou de quoi que ce soit. Pour nous, on part du principe que les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles, font partie intégrante de la sexualité. Au même titre que demain, je fais du volley, le risque, c'est que je me fasse mal à la cheville. Ça va avec. C'est-à-dire, toute pratique possède ses risques et ses dangers, et c'est OK. Et c'est pas grave, en fait. On chope quelque chose, on se soigne, on se dépiste, on prend soin de soi et on prend soin de ses partenaires également. Voilà, donc on les prévient, on dit voilà, j'ai eu ça, etc. Et la culpabilité, du moment où on commence à l'enlever, très souvent, on s'aperçoit que ça résout énormément de situations. Ça va résoudre le fait de ne pas avoir peur d'aller voir le médecin pour être dépisté. Donc, ça va permettre d'avoir de l'accès aux soins. Ça va permettre, si la déculpabilisation est là, de prévenir ses partenaires et qu'il n'y ait pas de mauvaise réaction derrière. Donc, du coup, que la personne se soigne aussi. Donc, on a encore de l'accès aux soins. Tournez vire, la santé est bien meilleure. La culpabilité est un frein à beaucoup de choses et notamment à l'accès à la santé. C'est pour ça que nous, on a ce travail-là aussi de déculpabiliser absolument la chose. De parler de façon très directe de ce que sont les maladies, de dire « mais c'est pas grave, chérie, t'as eu un chancre, et alors j'en ai eu 15 il y a 1000 ans, on s'en fout !» C'est pas grave parce que c'est là pour exister, ça arrive. Demain, on ne culpabilise pas les gens parce qu'ils ont chopé un rhume ou parce qu'ils t'ont filé un rhume. Je veux dire, parce que c'est comme ça, dans le métro, tu peux choper un rhume parce que quelqu'un est à côté de toi. Dans le sexe, c'est la même chose. Tu peux choper une syphilis, tu peux choper un chlamydia, une gonorrhée, parce que l'autre, peut-être la une, n'était pas au courant, et c'est pas sa faute. C'est comme ça. Mais évidemment, ça demande d'aller se dépister, d'aller comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est dans sa santé. Et si on chope quelque chose, on chope quelque chose. Rien de grave. Beaucoup de choses se soignent aujourd'hui. Certaines avec plus de difficultés que d'autres, c'est une réalité. Mais tout se soigne et autant être pris en charge au maximum. Voilà pourquoi nous, la culpabilité, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. On veut pas, on n'en veut pas.
En fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que la culpabilité tue énormément. Parce que quelqu'un qui se sent coupable est quelqu'un qui est en fragilité psychologique et ça peut mener au pire. Quelqu'un que l'on va culpabiliser et quelqu'un que... Enfin, comment dire ça ? Je vais utiliser des choses très très crues, mais culpabiliser, harceler quelqu'un, c'est le jeter par la fenêtre. de toute façon. Donc, on va se battre contre la culpabilité, la culpabilisation de soi-même, la culpabilisation de l'autre, en fait. Vous êtes comme vous êtes, et c'est très bien comme ça.
Avez-vous autre chose à rajouter pour clôturer ce podcast ?
Bah écoutez, moi, peut-être les petites choses, parce que je pense qu'on ne le dit jamais assez aux gens. C'est que vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles, vous êtes toutes bello. C'est important, vous êtes sublimes, tels que vous êtes. Dans toutes vos différences, dans toutes vos diversités, c'est ce qui fait tout ce qui est beau. Et c'est pour ça que les sœurs vous aiment et les sœurs vous aiment. Et n'hésitez pas à venir, et il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Si vous avez envie de papoter, de faire un petit coucou, un petit bonjour, ça nous fait toujours plaisir. On ne fait pas ça pour rien, on fait ça aussi parce qu'on a cette envie de répandre la joie. Voilà. Et donc c'est important de le dire encore une fois, vous êtes bello et on vous aime, bordel.
Donc c'est ce que disent beaucoup, beaucoup les sœurs aux États-Unis, c'est « joy, more joy and always joy », donc de la joie, plus de joie et toujours de la joie.
Merci beaucoup mes sœurs et merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, montrez-moi votre soutien, que ce soit avec un like, un partage, un commentaire sur votre plateforme audio d'écoute favorite, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, YouTube ou bien même sur mon site internet cinedensublime.com. Ça fait toujours plaisir.